magazine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, je suis Charlie, nous sommes tous Charlie. C'est ce que nous disons avec force pour commencer cette première édition d'une semaine d'actualité de l'année après notre rétrospective de 2014. Merci pour tous vos messages sur les réseaux sociaux à la page Une semaine d'actu de Facebook. Vous le savez, vous pouvez aussi écouter cette émission sur votre appli RFI et sur le site de la radio www.rfi.fr. L'attentat contre le journal Charlie Hebdo va être au cœur de notre rendez-vous, bien entendu. Nous allons y revenir dans la première partie de l'émission. On ne va pas parler de la situation de ces dernières heures en Seine-et-Marne et à Paris. On vient de la traiter dans le journal, mais de cette terrible journée de mercredi. Dans la seconde partie de notre rendez-vous, nous reviendrons sur l'actualité africaine en compagnie de Sylvie Brunel, géographe, spécialiste des questions de développement qui s'interroge dans un livre « L'Afrique est-elle si bien partie ?» Mercredi 7 janvier, au cœur de Paris, dans le 11e arrondissement, voici donc ce qui s'est passé. Franck Alexandre.
Le mercredi matin, c'est le jour de parution de Charlie Hebdo. C'est aussi le jour de la conférence de rédaction du journal. 11h30, deux hommes cagoulés et lourdement armés abattent les deux policiers en faction au 10 rue Nicolas Appert, siège du journal. Ils montent ensuite dans la salle de rédaction et ouvrent le feu sur les journalistes présents. L'une des journalistes échappe aux balles. C'est l'une des rares rescapées. Voici son témoignage, recueilli quelques instants après le drame. Elle s'appelle Sigolène Vincent. Si Sigolène Vincent est encore en vie, c'est parce qu'elle est une femme. L'un des agresseurs lui a dit « On ne tue pas les femmes, mais tu dois te convertir à l'islam, lire le Coran et te voiler avant de crier à la Wakbar. »
Écoutez un autre témoignage sur le vif pour bien comprendre la violence de cet attentat, celui d'un journaliste d'une société de production de télévision voisine des locaux de Charlie Hebdo. Il a vu l'attaque.
Des hommes cagoulés en noir, sont armés de Kalachnikov, sont rentrés dans le bâtiment. Ça a crié un peu dans la rue, donc on a été informé. On a appelé immédiatement la police. Au bout de quelques minutes, on a entendu des tirs de Kalachnikov, a priori dans le bâtiment, très nombreux. Nous, on a évacué sur le toit qui est juste à côté. Et puis, au bout d'une dizaine de minutes, on a juste pu voir deux personnes armées, cagoulées dans la rue, en bas du bâtiment, qui sont ressorties. Trois flics en vélo sont arrivés, trois policiers sont arrivés en vélo et sont partis parce que évidemment les hommes en face étaient armés et ils sont finalement rentrés dans la voiture au bout de quelques minutes après avoir crié dans la rue et ça a eu encore des tirs pendant quelques minutes dans la rue, assez nombreux. Voilà, là les pompiers, le SAMU, la police arrivent sur place depuis quelques minutes. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
Autre témoignage, une femme qui a vu fuir les deux terroristes.
J'étais juste à l'entrée de l'impasse verte. Je me dirigeais vers une voiture noire qui se trouvait là. Et lorsque tout d'un coup, j'ai vu deux hommes, tout habillés tout en noir, cagoulés. Ça ne m'avait pas frappé, sauf que tout d'un coup, j'ai entendu des coups de feu. Ils tiraient en direction d'une encoignure. Je n'ai pas vu ce qui se passait derrière l'encoignure. Je les ai vus remonter dans leur voiture. J'ai eu juste le temps d'attraper un vieux monsieur complètement sourd qui n'avait pas entendu les coups de feu et qui continuait d'avancer. Et nous avons couru vers l'angle avec le boulevard Richard Lenoir au moment où une voiture de police s'engageait dans la ruelle à grande vitesse. Lorsque, plein feu, se sont eux engagés pour aller dans le boulevard Richard Lenoir. La police a eu juste le temps de reculer à toute vitesse, à tel point même qu'ils ont encastré une voiture qui était garée là. Et par chance, les deux policiers ont réussi à sortir de la voiture, il me semble indemne. Mais il y avait 6 ou 7 balles, impact de balles dans le pare-brise.
Beaucoup de coups de feu ?
Oui, énormément. Une impression de coups de feu qui allaient dans tous les sens.
Dans le quartier où se trouve Charlie Hebdo, ce fut évidemment un choc. Reportage mercredi après-midi de Léa Ticlette.
Quelques rues étroites autour du siège de l'hebdomadaire. Charlie Hebdo est entouré d'immeubles résidentiels et de bureaux. Tout le monde sait que les journalistes sont sous surveillance policière. Ce monsieur qui préfère garder l'anonymat travaille à 10 mètres du siège du journal.
Avant, on voyait la police très bien affichée. Après, ça devait être plus discret. Mais bon,
Vous savez, dans ces cas-là, on peut pas savoir ce qu'il en a dit.
Les gens qui fréquentent le quartier sont abasourdis. C'est une scène de film au milieu du 11e arrondissement de la capitale que décrit cet auxiliaire de soins dans une résidence en face de Charlie Hebdo.
Dans la petite rue, elle est verte, là, il y avait la voiture de police qui est reculée à fond. Ils sont montés sur le trottoir, la police. Les pneus ont éclaté en même temps. Après, la voiture des gangsters a tourné à droite et est partie sur la Bastille. Au début, je croyais que c'était un film qui se tourne, c'est pas possible. Et non, quand j'ai vu la police paniquer, j'ai dit non, c'est bien un attentat ou quelque chose comme ça.
Ce mercredi, toute la journée, on pouvait lire la stupeur sur les visages, l'inquiétude aussi. Chacun voulait s'assurer que ses proches allaient bien. La vitrine du Pôle emploi, tout à côté du drame, porte les marques de la violence. Deux gros impacts de ballon zébraient la vitre.
Numéro spécial d'une semaine d'actualité consacrée à l'attaque contre l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. 12 morts, il faut le rappeler, 11 blessés, dont 4 graves, mais leur vie n'est plus en danger selon les médecins. Frédéric Boisseau, agent en entretien, Franck Brinzolaro et Ahmed Merabé, policier, Bernard Maris, économiste, Elsa Kayat, psychanalyste et chroniqueuse, Michel Renaud, Mustapha Ourad, correcteur et 5 dessinateurs de renom, des esprits vifs et un coup de crayon incisif. Honoré, Volinsky, Cabu, Charb, directeur en outre du journal, et Tignous, portrait signé Isabelle Chenu.
Le plus ancien d'entre eux, Georges Volinsky, avait 80 ans. Il avait exercé son talent de caricaturiste dans Harakiri Hebdo, devenu par la suite Charlie Hebdo. Fidèle à ses deux personnages, un gros sûr de lui et dominateur et un maigre tout timide qui tiennent des propos de café du commerce. Volinsky avait longtemps dessiné pour le journal communiste L'Humanité puis pour Paris Match. Ses dessins font désormais partie du patrimoine français. Cabu, son compère de la première heure du temps d'Harakiri, allait fêter ses 77 ans. Plume acerbe, il laisse des personnages fétiches comme le grand Duduche, lycéen lymphatique et maladroit, ou le beauf, archétype du français râleur, raciste et odieux en toutes circonstances. Tignous, de son vrai nom Bernard Verlac, avait rejoint la bande, un esprit corrosif qui adorait jouer avec les stéréotypes. Enfin Charb, 47 ans, était l'irrévérencieux directeur de la publication de Charlie Hebdo depuis 2009. Il dessinait Maurice et Patapon, le chien et le chat anticapitaliste. Charb avait vécu l'incendie du siège de Charlie Hebdo en novembre 2011, le jour de la parution du numéro intitulé les Charia Hebdo, avec Mahomet comme rédacteur en chef. Un de ses derniers dessins, amèrement prémonitoire, est intitulé « Toujours pas d'attentat en France ». Il montre un terroriste doigt levé qui prédit « Attendez, on a jusqu'à la fin janvier pour présenter ses vœux ».
Il y a eu des rassemblements dans toute la France, mercredi, en fin d'après-midi, et même les jours suivants, à la mémoire des victimes, à Paris notamment, reportage de Daniel Vallot.
Ils ont posé sur le sol quelques bougies et une vieille édition de Charlie Hebdo. François et ses amis sont arrivés sur la place de la République dès la fin de l'après-midi. Sur le front, ils portent une simple feuille sur laquelle ils ont marqué les mots « Je suis Charlie », le slogan adopté par la plupart des manifestants.
Je suis Charlie, c'est juste un panneau de solidarité pour dire qu'on est tous victimes de cet affreux attentat et que on est là pour la démocratie, je crois. C'est dur, c'est juste impensable, on est là pour sauver la démocratie de ce pays.
C'est hyper dur à réaliser, moi c'est arrivé vraiment à deux pas de mon bureau. On voyait les vidéos, ces gens cagoulés qui tiraient dans la rue. Enfin, c'est très choquant. Moi je suis pas particulièrement lecteur de Charlie Hebdo, mais il joue un rôle dans le fonctionnement de notre société, dans la démocratie. Et heureusement qu'il y a des journaux comme ça qui existent. Donc ce qui est encore plus grave, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant pour les journalistes qui peuvent aussi avoir peur de faire leur métier. Enfin tout ça c'est grave. Ouais.
Autour de la statue de la République, un sentiment de colère, mais surtout de gravité et de tristesse. Dans la foule, certains évoquent leur premier numéro de Charlie, acheté dans les années 70. Ces dessinateurs, ces journalistes nous ont accompagnés toute notre vie. C'est impossible d'imaginer, disent-ils, que nous ne verrons plus jamais leur signature.
Mercredi soir à 20h, le président François Hollande s'est solennellement adressé aux Français à la télévision. Voici un extrait de son intervention.
Nous devons être nous-mêmes, conscients que notre meilleure arme, c'est notre unité. L'unité de tous nos concitoyens face à cette épreuve. Rien ne peut nous diviser. Rien ne doit nous opposer. Rien ne doit nous séparer. La France, elle est grande. quand elle est capable, dans une épreuve, de se mettre au meilleur niveau. Le niveau qui a toujours fait que la France a pu surmonter des épreuves. La liberté sera toujours plus forte que la barbarie. Et la France, elle a toujours vaincu ses ennemis quand elle a su justement faire bloc autour de ses valeurs. C'est ce que je vous invite à faire. Le rassemblement de tous, sous toutes ses formes, voilà ce qui doit être notre réponse. Rassemblons-nous face à cette épreuve et nous gagnerons, car nous avons toutes les capacités de croire en notre destin et rien ne pourra nous faire fléchir dans la détermination qui est la nôtre. Rassemblons-nous.
L'Union nationale, depuis mercredi, l'heure est à l'Union nationale dans la classe politique. Pierre Firsion.
C'est un acte de guerre par la terreur pour François Bayrou, le président du Modem. C'est la démocratie qui est attaquée aux yeux de Nicolas Sarkozy, le président de l'UMP. Horreur, consternation, voilà les mots qui reviennent en boucle chez les élus devant cet acte d'une exceptionnelle barbarie, pour reprendre l'expression utilisée par François Hollande. Tous dénoncent un attentat contre la démocratie, contre la liberté d'expression. Attention dans ce contexte à ne pas stigmatiser les musulmans. La mise en garde émane de plusieurs responsables, dont Nicolas Sarkozy, qui a appelé les Français à refuser la tentation de l'amalgame. L'UMP qui, comme le PS et les autres groupes politiques de l'Assemblée nationale, ont appelé à l'Union nationale pour, je cite, « défendre la liberté sous toutes ses formes ». Au Front national, réaction d'une autre teneur. Si Marine Le Pen a également fait part de son choc, la présidente du parti d'extrême droite a toutefois estimé dans une vidéo que le ton du déni n'était plus possible. Cet attentat, a-t-elle ajouté, doit libérer notre parole face au fondamentalisme islamique.
Suite de cette édition spéciale d'une semaine d'actualité, avec donc un retour sur le massacre de mercredi à Charlie Hebdo, le plan Vigipirate est passé à son niveau maximum dans la région parisienne. Simon Rosé.
Ce plan entraîne l'interdiction des grands rassemblements ou celle de stationner près des écoles. Les contrôles et les patrouilles à proximité des lieux sensibles deviennent systématiques. Là, en l'occurrence, en plus des édifices publics, ces lieux sensibles, ce sont les organes de presse, les lieux de culte, les transports et les grands magasins. Des cellules de crise sont également mises en place et tous les services d'intervention d'urgence de la police et des secouristes sont en alerte. C'est la première fois depuis la réforme du système Vigipirate l'an dernier que le niveau alerte attentat est activé. Depuis juillet 2005 et les attentats de Londres, il a toujours été au niveau rouge au minimum, passant très souvent au niveau rouge renforcé durant les périodes sensibles comme celle des fêtes de fin d'année. En mars 2012, pour la première fois, le plan Vigipirate était passé en alerte écarlate. C'était au moment des tueries perpétrées par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban. 7 personnes, dont 4 enfants, étaient mortes.
Il faut le préciser ici, ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, que la France est touchée par le terrorisme. Olivier Four.
Terrorisme proche-oriental en 1986, quand la France est visée par une série d'attentats, dont l'attentat de la rue de Rennes, total 13 morts, 300 blessés. Le milieu des années 90 voit le terrorisme algérien viser la France. Détournement de l'Airbus de Marignane en 94, attribué à une branche du GIA. Affaire Kelkal, attentat du RER Saint-Michel en juillet 95, 8 morts. Depuis, la France est en alerte permanente. Après les attaques du 11 septembre aux États-Unis, l'Europe est frappée par Al-Qaïda. Attaque à la bombe à Londres et Madrid en 2004 et 2005. La vigilance des services français permet d'éviter un attentat d'envergure dans l'Hexagone. 2012 marque une nouvelle étape avec l'affaire Merah, le tueur de Toulouse, considéré comme un loup solitaire, petit truand, ayant suivi un entraînement militaire au Pakistan, mais qui aurait agi seul. 7 Français, dont 3 enfants, tomberont sous ses balles. 2013, la France entre en guerre contre les groupes armés djihadistes au Sahel. L'armée française élimine plusieurs chefs d'Acmi et d'Al-Morabitoun. En Somalie, le chef d'Al-Shebab, Ahmed Abdi Godane, est éliminé par les États-Unis, certainement grâce à des renseignements français. Enfin, 2014 marque l'entrée en guerre de la France contre l'organisation de l'État islamique, dont 1 millier de Français auraient tenté de rejoindre les rangs d'une manière ou d'une autre. Plus que jamais, la France se retrouve donc dans le viseur des mouvements djihadistes internationaux.
Les messages de condoléances et de solidarité sont venus du monde entier, qu'il s'agisse des chefs d'État ou de citoyens de tous les pays, même solidarité de la presse de la planète. Écoutez par exemple cette réaction du secrétaire d'État des États-Unis, John Kerry, en français.
La liberté d'expression et la liberté de la presse sont des valeurs fondamentales, universelles. Il arrive que ces principes soient attaqués, mais jamais ils ne pourront être éradiqués, parce que partout dans le monde, des hommes et des femmes se dresseront toujours avec courage contre l'intimidation et la terreur que voudraient reprendre ceux qui cherchent et les détruire. Je suis d'accord avec l'imam de France qui a dit aujourd'hui que les journalistes assassinés sont des martyrs de la liberté. Les assassins ont proclamé aujourd'hui que Charlie Hebdo est mort. Soyez sûrs d'une chose, ils ont tort. Aujourd'hui, demain, à Paris, en France et à travers le monde, le pouvoir de la liberté d'expression vaincra dans la lutte contre l'obscurantisme.
Il y a eu aussi des rassemblements spontanés dans bon nombre de capitales du monde, à Londres par exemple. Reportage mercredi de notre correspondante Muriel Delcroix.
Allons enfants de la patrie.
La Marseillaise entonnait spontanément en haut des marches de Trafalgar Square, tandis que le visage grave, les participants tiennent des pancartes « Je suis Charlie » ou brandissent un stylo. Dans cette foule débordée par l'émotion, recueillie, de nombreux Français, mais aussi des citoyens britanniques, parmi lesquels le philosophe Anthony Grayling, qui refuse de se laisser intimider.
Cette attaque devrait nous rendre encore plus déterminés à dire non. Non, nous n'accepterons pas votre façon de penser et d'agir. Nous utilisons les stylos, les micros, vous utilisez les armes. Ce n'est pas ça la civilisation.
À ses côtés, un journaliste indépendant, Chris White, se dit encore abasourdi.
Fort choqué, oui. Quelque chose comme ça qui est si sauvage, si nihiliste, c'est bouleversant.
La Grande-Bretagne multiplie les messages de soutien à la France. La reine Elisabeth II a adressé ses condoléances aux familles des victimes. Le Premier ministre David Cameron a dénoncé des meurtres révoltants et le pays est inquiet. Si pour l'instant, il n'est pas question d'accroître le niveau d'alerte, déjà relevé depuis plusieurs mois à sévère, une réunion d'urgence Cobra est prévue ce jeudi pour discuter et éventuellement revoir le dispositif antiterroriste à la lumière de l'attentat parisien.
Une semaine d'actualité.
Jeudi a été décrété journée de deuil national par le président de la République avec une minute de silence à midi dans toute la France et sur les radios un message des médias lu sur RFI par Cécile Mégy, la directrice de la radio.
Je suis Charlie. Hier à Paris, le journal Charlie Hebdo a été la cible d'une attaque terroriste. 12 personnes sont mortes. Des journalistes, des policiers, des amis. Au nom de tous les groupes de médias de France, nous adressons à nos confrères, à leurs familles, à ceux qui sont morts pour les protéger et à toute l'équipe de Charlie Hebdo, nos pensées les plus émues. À travers eux, c'est la liberté de la presse et plus encore l'esprit de liberté qui sont touchés en plein cœur. La presse satirique bouscule, éveille et agite les consciences. Elle nous invite par l'humour à mieux déjouer les sectarismes et les fondamentalismes. Ceux qui sont morts hier plaçaient le rire au cœur de nos vies, pour nous rendre plus libres. Plus que jamais, la liberté de penser et la liberté d'expression animent notre travail quotidien. En ce jour de deuil, nous tenons à affirmer que nous ne céderons ni à la menace, ni à la terreur. Nous ne laisserons pas le silence s'installer et veillerons à combattre toute forme de stigmatisation. Les médias français sont prêts à mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour que Charlie Hebdo continue à vivre. Nous devons être mobilisés, toutes et tous, pour défendre la liberté de la presse. Nous continuerons de la défendre en leur nom.
Dans nos journaux ce matin, on vous parle bien sûr de la fin de la traque des deux djihadistes français, les frères Kouachi, Chérif et Saïd, en Seine-et-Marne, et de ce qui s'est passé à Paris, porte de Vincennes. Nous allons marquer une pause, écouter justement quelques nouvelles de ces dernières heures, et on va se retrouver dans 3 minutes pour parler de l'actualité africaine, cette fois, en compagnie de Sylvie Brunel. À tout de suite. Merci pour toutes ces informations. Retour à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité.
Après la première partie de l'émission consacrée à l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo mercredi, nous allons maintenant partir pour l'Afrique. Afrique où les journalistes ont été choqués aussi, comme ceux du petit railleur sénégalais. Correspondance de Dakar signée Karine Franck, jeudi.
Au petit railleur sénégalais, on se place dans la droite ligne du canard enchaîné et l'on se veut bête et méchant, comme à Charlie Hebdo. C'est Odia qui dessine les caricatures. Il se dit dévasté par la mort de son modèle, le dessinateur Cabu.
C'est quelqu'un qui m'a toujours subjugué par rapport à ses dessins, ses idées, son trait, son humour. Génial, hein. Chaque fois quand il fait ses dessins, là, c'est... moi je rigole toujours de ses dessins. C'est quelqu'un de fabuleux, de fantastique. Alors, je peux pas comprendre qu'il puisse partir comme ça, par la force des armes, par à cause de ses idées, de, parce que tout le monde connaît Cabu, tout le monde sait qu'il a la plume alerte et la plume libre. C'est absolument triste pour moi.
Yves Bouffal est le directeur de publication.
C'est terrible. Nous en sommes à un monde où on peut te buter pour rien du tout.
Un simple dessin.
Voilà, un dessin. Alors, ça, c'est devenu général. C'est-à-dire que maintenant, les gens s'accrochent à leur manière de voir le monde, à leur manière de penser leur religion, au point que c'est devenu une question de vie ou de mort. C'est la cruauté humaine qui prend le dessus et qui, aujourd'hui, qui est en train de triompher. Et ça ne va pas se calmer. Hein.
D'où l'importance de continuer pour Thioc Baram, le rédacteur en chef, plus résolu que jamais à être bête et méchant.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, continuez à nous écrire. Merci pour vos messages. Des centaines de messages de vœux et de réactions au massacre à Charlie Hebdo au cœur de Paris. Donc, pas de dédicace aujourd'hui, mais merci à tous pour votre fidélité. Bonjour Sylvie Brunel.
Bonjour Pierre-Edouard Deldic.
Merci de nous accompagner aujourd'hui dans une semaine très très sombre. Une réaction à ce que vous avez entendu d'abord à Dakar et dans la première partie de l'émission. Vous écoutiez attentivement.
Oui, je pense que cette idée que nous vivons un nouvel 11 septembre est extrêmement touchante, cette solidarité pour les journaliste, dessinateur français assassiné.
C'était le titre du Monde jeudi, hein, ou mercredi soir, le 11 septembre français.
Oui, mais je crois que nos collègues du Tirailleur sénégalais ont tout à fait raison quand ils soulignent qu'aujourd'hui, la violence figure au cœur de nos sociétés et que pour un grand nombre de populations en Afrique, en ce moment même et dans le monde, eh bien, elles sont des Charlie, qu'il s'agisse des Syriens assiégés par Daesh, des Nigériens du Nord-Est, victimes de Boko Haram, des populations de l'Est du Kivu, des migrants érythréens dans le Sinaï, des ONG de défense du droit de l'homme en Russie ou en Corée du Nord, des médias qui sont menacés partout dès qu'ils se trouvent dans une dictature. Il faut se souvenir qu'aujourd'hui, dans le milliard de personnes qui vivent en Afrique, eh bien beaucoup sont des Charlie au quotidien et parfois on n'en parle pas suffisamment.
Et j'ajoute à votre liste, Sylvie, que la branche libyenne de l'État islamique a affirmé hier avoir exécuté deux journalistes tunisiens qui étaient portés disparus en Libye depuis le mois de septembre.
Voilà.
Deux de plus.
Nous sommes tous des Charlie et il faut penser à ceux qui le vivent au quotidien.
D'ailleurs, le terrorisme, et là on va venir au livre que vous venez de publier, l'Afrique est-elle bien partie aux éditions Sciences Humaines, l'Afrique connaît aussi au combien, vous y avez déjà fait référence, le terrorisme.
L'Afrique,
au Nigeria.
L'Afrique subit au cœur même du continent une vaste zone extrêmement inquiétante. Un arc de menace, l'arc de crise sahélien qui croise ce que j'appelle la diagonale du vide et des conflits, hein, qui prend en écharpe le continent de la Somalie à l'Angola en passant par l'est du Kivu. Et cette situation est très inquiétante pour le continent parce que elle menace les littoraux urbains arrimés à la mondialisation. C'est-à-dire que cette Afrique émergente n'est pas si bien partie quand on pense qu'il y a dans les périphéries urbaines beaucoup de laissés pour compte, beaucoup de jeunes qui sont marqués par le fait qu'ils soient à la fois en contact avec la richesse, grâce aux réseaux sociaux, grâce à Internet, et en même temps conscients que leur avenir à eux est bouché. Et cette Afrique-là, elle est assise sur une poudrière.
Alors vous réagissez dans ce livre en vous posant cette question, est-elle si bien partie, l'Afrique, à ce climat d'afro-optimiste ? Bon, c'est peut-être mieux que l'afro-pessimisme, mais vous dites ni l'un
ni l'autre, finalement.
Ni l'un ni l'autre.
Soyons lucides.
Oui, j'étais tout à fait opposée à la vision d'une Afrique totale faite s'enfonçant dans une sorte de chaos généralisé à la fin de la guerre froide, quand en 1992, 35 pays en guerre étaient en guerre sur 53. Aujourd'hui, il y en a 54. Et où on entendait qu'il fallait arrêter de jeter de l'argent dans ce que certains appelaient même d'un trou à rats. Mais je trouve qu'aujourd'hui, cette vision lénifiante d'une Afrique qui est le continent de demain, qui a des taux de croissance merveilleux, fait quand même fi de beaucoup d'injustices, de beaucoup d'inégalités et de beaucoup de germes de fractures, de fissures à l'intérieur d'un continent qui est extrêmement diversifié. C'est 54 pays, c'est un quart des terres émergées. Donc on ne peut pas résumer l'Afrique à un taux de croissance, surtout quand ces taux de croissance partent de si bas qu'ils ne veulent rien dire. 27 pays sur 54 ont un PNB par habitant inférieur à 1000 dollars. Donc même s'ils croissent de 10%, qu'est-ce que ça veut dire? Le rattrapage n'est pas à l'ordre du jour. Et puis il faut penser à cette épidémie d'Ebola qui a touché parmi les plus déjà affaibli. Donc, arrêtons d'être aveuglés par un taux de croissance. Ça ne veut rien dire.
C'est un cri d'alarme, dites-vous, votre
livre. Oui, c'est un cri d'alarme parce que je pense que tant que l'Afrique ne sera pas plus juste, tant qu'elle ne sera pas plus redistributrice, tant que ses élites ne seront pas plus solidaires à la fois entre elles et avec les populations pauvres des villes et des campagnes, l'Afrique ne pourra pas se développer durablement. Je pense que René Dumont, quand il écrivait en 1962 « L'Afrique noire est mal partie » parce qu'il parlait du poids des bureaucraties, parce qu'il parlait de la négligence envers les paysans, eh bien, il avait vu juste. Et aujourd'hui, la situation s'est certes améliorée, mais elle s'est améliorée en tache de léopard. Et elle laisse de côté trop de régions, trop de populations, trop de classes sociales.
D'autant, dites-vous, Sylvie Brunel, que beaucoup parlent de l'Afrique sans la connaître. Vous dites, ceux qui prétendent aimer l'Afrique aiment en réalité un objet fantasmé.
Oui, l'Afrique, alors c'est très étrange parce qu'on dit toujours, moi j'adore l'Afrique. Alors on adore...
Avec ce ton-là, vous avez raison.
Exactement. Et alors, c'est un continent qui a toujours subi une sorte d'ostracisme, puisqu'il était représenté avant comme un continent dans l'enfance, alors que c'est le continent le plus ancien du monde, c'est celui où l'homme est apparu, et la femme d'ailleurs, puisque c'était une femme. C'est le continent qui a été victime de la traite, puis de la colonisation, et aujourd'hui il y a tout un tas de gens qui prétendent donner des leçons à l'Afrique avec un grand A, quand les 54 pays africains présentent des situations et des trajectoires extrêmement différentes.
Continent de l'écriture, contrairement à ce qu'on dit.
Continent de l'écriture, continent de la mémoire, continent des villes bibliothèques, continent dont on a tellement méconnu l'histoire qu'on a prétendu qu'il pouvait être sans histoire.
Qu'est-ce que vous appelez, Sylvie Brunel, le syndrome de Tarzan?
Ah, le syndrome de Tarzan, vous savez, Tarzan, c'est un personnage qui a été inventé par un romancier anglais au début du XXe siècle et qui présentait l'homme blanc pourvu d'absolument toutes les connaissances puisqu'il savait piloter un avion, qui défendait le singe, l'éléphant contre les méchantes peuplades africaines. Et je suis extrêmement marquée aujourd'hui par l'extension de ce que j'appelle la conservation, c'est-à-dire ce réseau d'ONG internationales qui mettent l'Afrique sous cloche au motif qu'elle serait une sorte de conservatoire de la biodiversité contre les populations locales. Populations qui sont souvent privées de leurs droits sur les terres, de leurs droits sur les arbres, de leurs droits sur la viande de brousse. Alors, ça me marque d'autant plus que j'ai publié il y a quelques mois un livre sur un cheval du nord de l'Atacora, le cheval Berba, qui est un cheval résistant à la maladie du sommeil et qu'on a bas parce que les chasseurs berbats pénètrent dans le parc du WO de la Penjari et on considère que au nom de la défense de la biodiversité sauvage, on peut abattre la biodiversité domestique. Et je pense que la vraie écologie, c'est celle qui se préoccupe des hommes sur leur territoire.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir, Sylvie Brunel, au Mali après l'attaque lundi par de présumés terroristes de position de l'armée malienne dans le centre du pays, près de la frontière mauritanienne. Bilan 7 morts, correspondance de Serge Daniel.
C'est la première fois depuis l'intervention française de janvier 2013 que des groupes qualifiés de terroristes mènent une attaque bien au sud de la ville de Tombouctou, c'est-à-dire au centre du Mali. La facilité avec laquelle l'attaque a été menée a surpris. Ensuite, Nampala est une localité située non loin de la frontière avec la Mauritanie où se trouve une forêt communément appelée la forêt du Ouagadou. Les observateurs croyaient la zone sécurisée, ce n'est pas visiblement le cas. Autre observation, le mode d'action des assaillants. Ils n'avaient probablement pas l'intention de prendre le contrôle de la localité de Nampala et de rester sur place, mais d'y mener un raid et de repartir. Apparemment, ils ont réussi. Ils multiplient ainsi sur le terrain leur stratégie depuis qu'ils ont été chassés des principales localités du nord. Il s'agit de la guérilla, des embuscades, bref, de la guerre asymétrique. Au nord comme ailleurs, sur le territoire national, la guerre contre le terrorisme est donc loin d'être gagnée. L'armée malienne en reconstruction doit revoir sa stratégie, estiment les mêmes observateurs. L'armée malienne met aussi et surtout les casques bleus de l'ONU. Aujourd'hui, ils n'ont pas tous les moyens nécessaires pour faire face à la situation.
Suite d'une semaine en Afrique, en Gambie cette fois, après la tentative de putsch le 30 décembre dernier, mardi, le président gambien a déclaré vouloir faire un exemple, promettant de se débarrasser des assaillants. Correspondance régionale de Karine Franck.
Ce sera œil pour œil, a lancé Yaya Jamé, une expression qui fait froid dans le dos, reconnaît un journaliste gambien exilé au Sénégal. Nous savons ce qu'il est capable de faire, il va profiter de la situation pour serrer encore la vis. François Patuel, spécialiste de la Gambie à Amnesty International, redoute pour sa part des arrestations massives, des procès expéditifs, peut-être même des condamnations à mort. Car selon plusieurs observateurs, Yaya Jamé a quelques éléments objectifs pour se sentir plus fort, lui qui était très isolé. Ces derniers mois, l'Union européenne avait suspendu le dialogue politique, les États-Unis avaient fermé les portes de l'AGOA, la CDAO avait retoqué sa candidature à la présidence de l'organisation. Voilà qu'à la suite de l'échec du coup d'État, les Nations unies, l'Union européenne, le Sénégal et même les États-Unis condamnent la tentative de renversement de l'ordre constitutionnel. Les États-Unis qui ont même inculpé deux ressortissants américains d'origine gambienne pour avoir participé à la tentative de putsch. Les activistes qui se trouvent aux États-Unis en Grande-Bretagne et au Sénégal risquent désormais de faire profil bas. Ils se taisent d'ailleurs depuis les derniers événements. Yaya Jamé pourrait bien profiter d'un répit, prédit un observateur. Mais pour combien de temps ?
Vous écoutez RFI et vous avez raison, suite d'une semaine en Afrique, nous sommes en compagnie de Sylvie Brunel, spécialiste des questions de développement, géographe, auteur de nombreux livres qui analysent notamment les questions de développement. Dans cette analyse nuancée que vous faites dans ce livre, dans ce cri d'alarme, pour reprendre votre terme, vous parlez aussi de l'instabilité politique qui freine de façon, je dirais, chronique le développement de certains pays africains.
Oui, les vraies démocraties en Afrique sont très rare. Vous avez beaucoup de pays qui sont menacés soit par la démocrature, soit par la dictature. Vous savez que 2015 va être l'année de tous les dangers puisque plus de 20 pays vont connaître des élections essentielles. Or, ce qu'on constate, et votre correspondant au Mali vient de le montrer, c'est que un certain nombre de pays sont de fait des autoroutes de la drogue, des autoroutes des armes, des autoroutes des passeurs clandestins, que certains pays qui sont considérés pourtant comme des émergents, je pense au Nigeria, ont carrément laissé de côté des pans entiers de leur territoire. Et c'est d'autant plus effrayant que les dépenses militaires du continent se sont accrues de plus de 60% depuis le début des années 2000. Donc on pourrait penser que l'Afrique s'équipe, mais les armées sont encore mal équipées. Elles sont soumises à des tentations, faut bien le dire aussi. Et cette Afrique-là est une Afrique profondément dangereuse, une Afrique profondément inquiétante pour les métropoles avancées des littoraux.
Avec le mal endémique de la corruption. L'Afrique n'est pas le seul continent à connaître la corruption, mais la corruption est là et mine aussi les économies.
L'Afrique subit à la fois des frontières poreuses, une conception du droit à géométrie variable et de fortes tentations avivées par la pauvreté. La pauvreté parce que la corruption, elle touche aussi bien les riches que les pauvres, il faut bien le dire, en Afrique. Or, les seuls pays qui se développent durablement, ce sont des pays qui ont une vision à long terme et qui mènent des politiques redistributives. On le voit bien avec tous les programmes de ce qu'on appelle les conditional cash transfers, c'est-à-dire les programmes qui visent à redistribuer une partie de la richesse nationale aux populations pauvres, qu'elles soient citadines ou rurales, pour leur donner confiance en l'avenir, pour leur permettre de scolariser leurs enfants, de créer des entreprises, de voir un peu plus loin que la survie quotidienne. Or, ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est que le développement africain repose très largement sur des économies d'enclave, c'est-à-dire sur des matières premières, sur des investissements chinois, sur des effets d'aubaine liés au prix élevé du pétrole et des matières premières. Or, le prix du pétrole et des matières premières s'effondre et risque d'entraîner avec lui cette émergence factice de l'Afrique.
Mais tout le monde parle, Sylvie Brunel, de la croissance africaine. Là aussi, je crois qu'il faut être nuancé, plus nuancé que ça, non ?
Il faut être nuancé parce que cette croissance, qui est effectivement supérieure à 5% par an depuis le début des années 2000, repose sur des fondamentaux fragiles, c'est-à-dire une économie de rente, des matières premières, des sources d'énergie, du pétrole, des marchés de consommation qui sont en réalité beaucoup plus faible que ce qu'on dit. On parle d'une classe moyenne de 300 millions de personnes, mais quand on sait que la Banque africaine de développement fait partir la classe moyenne en Afrique à partir de 2 dollars de revenus par jour...
Oui, vous dites que c'est un concept flou.
C'est un concept très flou, parce qu'à 2 dollars de revenus par jour, vous êtes au seuil de la survie et de la précarité. Donc, ce sont des gens qui vivent dans la peur du déclassement. Or, sur cette classe moyenne de 300 millions de personnes, ils représentent près de 200 millions de personnes. Donc, les marchés existent, les besoins à satisfaire sont considérables, mais l'Afrique a énormément besoin à la fois d'infrastructures solides, de stabilité dans le droit des affaires et puis de confiance, cette confiance envers les dirigeants.
Sept jours en Afrique.
Et nous partons pour le Nigeria maintenant, Sylvie Brunel, où dimanche, l'armée a perdu sa base de Baga après une attaque de Boko Haram, encore Boko Haram, Nicolas Champeau.
La prise de la base de Baga a permis de comprendre que le Tchad et le Niger ne comptaient plus d'hommes dans cette caserne censée être le bastion opérationnel de la force sous-régionale chargée de lutter contre Boko Haram. Suite au massacre commis par des insurgés islamistes en novembre dernier, Niamey et N'Djamena ont décidé de retirer leurs éléments au motif que l'armée nigériane n'avait pas pris suffisamment de dispositions pour sécuriser la zone. Des officiels camerounais sous couvert d'anonymat font part également de leur exaspération. Le Cameroun a naïvement pris des engagements lors du sommet de l'Elysée à Paris il y a 8 mois, mais le Nigeria ne fait rien. Or, le conflit déborde chez nous, a récemment déploré un haut gradé camerounais, furieux que le Nigeria ait renoncé à toute mission régalienne dans l'état de Borno, qui longe le Cameroun sur plusieurs centaines de kilomètres. Les voisins du Nigeria ne sont pas les seuls à mettre en doute la sincérité de l'administration de Goodluck Jonathan. Washington a regretté le mois dernier l'interruption, à la demande d'Abuja, d'une mission de formation dispensée par les Américains à une unité de soldats nigérians. Les États-Unis dénoncent aussi régulièrement l'absence d'enquête sur des abus présumés commis par des soldats nigérians dans le nord-est du pays.
Et dans une vidéo, le chef de Boko Haram a menacé directement le président du Cameroun, Paul Biya, ainsi que l'armée camerounaise. Suite d'une semaine d'actualité en Centrafrique, cette fois où la fin de la transition est repoussée au mois d'août de 6 mois, donc Laurent Corot.
Les retards s'accumulant dans les préparatifs des élections, il était clair depuis plusieurs mois que l'échéance de février 2015 était devenue impossible à tenir. Le 11 novembre dernier, le groupe international de contact sur la Centrafrique a estimé que la transition devait être étendue de 6 mois. Une demande ensuite relayée auprès du médiateur par les 3 têtes de la transition qui lui ont adressé un courrier conjoint en ce sens. Les lettres que Denis Sassou Nguesso a adressées en réponse sont datées du 22 décembre. Le président congolais estime à son tour que l'échéance électorale de février 2015 n'étant plus tenable, il y a lieu de procéder à une extension de 6 mois de la transition, en d'autres termes jusqu'au mois d'août 2015. Pourquoi s'en être remis au président congolais ? Eh bien parce que c'est ce que les textes prévoient. La charte de transition qui organise à l'heure actuelle les pouvoirs en Centrafrique stipule dans son article 102 que la durée de la transition peut être portée de 18 à 24 mois sur avis conforme du médiateur.
Suite d'une semaine en Afrique, toujours en compagnie de Sylvie Brunel, je vous ai vu réagir en écoutant l'analyse de Nicolas Champeau sur le Nigeria.
Oui, c'est incroyable que ce pays, qui se dit pays émergent, ait complètement laissé de côté le nord-est de son territoire. Le président va candidater à nos nouvelles élections. On dirait que certaines populations comptent moins. Il faut quand même voir que la ville de Maïdougouri aujourd'hui est directement menacée. Que le Cameroun, qui voudrait faire du tourisme un des piliers de son émergence, eh bien comment envoyer des touristes dans cette région magnifique et le nord du Cameroun quand ils risquent d'être pris en otage ? Il faut penser à ces lycéennes qui sont peut-être converties aujourd'hui en des attentats suicides. On se demande si ces jeunes femmes que Boko Haram engage de plus en plus ne sont pas ces lycéennes prises en otage. Alors, c'est très inquiétant de voir qu'il y a aujourd'hui en Afrique une ligne de partition qui court dans tous les pays, qui oppose le monde des éleveurs nomades, souvent musulmans, aux cultivateurs qui sont en général des cultivateurs chrétiens animistes. C'est-à-dire que vous avez à la fois une fracture religieuse, une fracture d'occupation de l'espace, une fracture politique, mais aussi de plus en plus une fracture climatique. Pourquoi ? Parce que dans tous les continents du monde, l'Afrique est celui qui est le plus exposé au changement climatique et celui qui contribue pourtant le moins à l'effet de serre, puisqu'elle ne fait que moins de 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Et donc, on a ce continent qui est à la fois extrêmement avancé là où il est arrimé à la mondialisation et qui a ce ventre mou à l'intérieur du pays, à l'intérieur du continent, pardon, où tout devient possible. Et si ces chefs d'État, quels qu'ils soient, ne se préoccupent pas de redistribuer, de faire de l'aménagement du territoire, d'envoyer les armées, eh bien, il ne peut pas y avoir un développement qui soit possible sur le long terme. C'est impossible.
Le développement avec, par exemple, aussi le défi de l'eau que vous relevez aussi dans ce constat, dans votre livre, un sujet que vous connaissez bien.
L'Afrique aussi, entre trop d'eau et pas assez d'eau. Alors, pour les uns, c'est le magot, et pour les autres, c'est le marigot. Mmh. Ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, trop de bidonvilles vivent avec des systèmes d'eau qui soient totalement pollués, avec pas de système d'évacuation, avec des villes qui sont les pieds dans l'eau quand la pluie arrive, et ça reste des jours et des jours, c'est source de maladies, de périls fécales, de maladies diarrhéiques. Il faut se retrousser les manches, chacun doit se retrousser les manches. Il y a une société civile en Afrique, dans la plupart des pays d'Afrique, qui est extrêmement dynamique, extrêmement courageuse. Des associations de femmes, des associations de quartiers, des jeunes, des paysans, ils sont prêts, eux, au quotidien, à fournir un effort considérable. Si leurs dirigeants ne suivent pas, à quoi ça sert ? On parle du développement durable comme le bottom-up, partir de la base pour aller vers le sommet, mais encore faut-il que le top-down, c'est-à-dire du sommet vers la base, suive. Et ce n'est pas le cas.
Des Africains de plus en plus dans les villes, vous nous le rappelez dans le livre, en 1950, il n'y avait pas une ville de plus d'un million d'habitants, en 2010, il y en avait 38.
Oui, et il y en aura de plus en plus. Les plus grandes métropoles du monde demain seront au cœur du continent africain et particulièrement sur les littoraux africains. Vous avez une conurbation qui va aujourd'hui d'Abidjan jusqu'à Lagos.
Conurbation, c'est-à-dire une grosse ville littorale.
Mmh. Alors, ces villes-là, elles sont directement menacées par le changement climatique, par la montée des eaux, par les phénomènes violents. Nous avons besoin de mettre en place des politiques d'adaptation. On a besoin de géographes, on a besoin d'agronomes, on a besoin d'aménageurs. La ville durable, c'est une réalité. Ça doit devenir une réalité aujourd'hui en Afrique. C'est-à-dire que les chantiers qui s'offrent aujourd'hui au continent africain sont considérables. Ce sont des chantiers fabuleux. Ce sont des chantiers qui devraient mobiliser la totalité de la population, la totalité des citadins et qui pourraient fournir énormément d'emplois. L'Afrique pourrait se nourrir et nourrir le monde. Mais encore faut-il qu'elles s'unissent. Et ce n'est pas le cas.
Et Sylvie, alors que répondre à ceux qui doivent s'interroger en ce moment, qui entendent parfois dire que l'Afrique c'est l'avenir, et vous qui dites prudence.
L'Afrique c'est l'avenir dans tous les cas, parce que de toute façon, elle va être tellement importante démographiquement sur le plan mondial.
Ça rappelle important.
Qu'elle sera le continent qui représentera plus d'un cinquième de la population mondiale, c'est-à-dire ce qu'elle représentait avant la saignée de la traite. Maintenant, il faut quand même se rendre compte de quelque chose d'important, c'est qu'en 1990, un pauvre sur cinq dans le monde était africain. En 2015, un pauvre sur trois dans le monde est africain. Mais en 2030, si ça continue comme ça, ce sera deux pauvres sur trois dans le monde qui seront africains. Ça veut dire que le reste du monde avance plus vite aujourd'hui que l'Afrique. Donc parler de l'émergence sans lutter de façon plus volontariste contre la pauvreté, c'est se préparer des lendemains qui déchantent. Et l'Afrique ne sera pas une opportunité pour le monde à ce moment-là. Elle sera une menace pour le monde. Et on le voit bien aujourd'hui avec ces filières de passeurs qui provoquent une mortalité monstrueuse dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, à travers le Sahara.
Donc vous douchez un petit peu notre optimisme relayé depuis quelques années, Sylvie.
Oui, la France a créé l'opération Barkhane comme la dune. Vous savez, la Barkhane, c'est une immense dune. La dune face à l'avancée du terrorisme. Mais il ne faut pas que le reste du monde fasse comme il a fait face à Ebola, c'est-à-dire stigmatiser l'Afrique et dresser des cordons sanitaires autour de ce développement qui fait peur parce qu'il est chaotique. Et vous avez des pays sur lesquels on peut s'appuyer, des pays qui donnent des exemples de réussite d'émergence.
Le Ghana, on cite souvent le Ghana, nous.
Oui, on cite aussi des pays qui malheureusement ont choisi des régimes autoritaires, hein, comme le Rwanda ou l'Éthiopie. Mais on peut citer aussi le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Botswana, l'île Maurice. Ça ne veut pas dire que tout va bien. Ça veut dire que ces pays-là ont trouvé des voies qui sont faites d'une réflexion des contraintes du territoire, des atouts de la population, et puis des limites de ce qu'on peut faire. C'est pas la peine d'avoir des rêves de grandeur irréalisables. Il faut faire avec ses moyens. Fouad Boigny disait, la révolution est un mot qui a un R de trop. Il nous faut évoluer.
Merci Sylvie Brunel. Votre livre s'intitule « L'Afrique est-elle si bien partie ?» Le livre publié aux éditions Sciences Humaines, et bravo pour ce dynamisme qui vous est caractéristique. Une semaine d'actualité, réalisation Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la radio, www.rfi.fr. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Plus que jamais, RFI continuera à vous proposer des idées contre l'obscurantisme. Nous parlerons demain de la naissance de la notion de célébrité, ces fameux people, comme on dit aujourd'hui. Figurez-vous que cela remonte au XVIIIe siècle. Nous verrons cela avec l'historien spécialiste du siècle des Lumières, Antoine Lilti. Les Lumières précieuses aujourd'hui, n'est-ce pas Sylvie? Demain, 10h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Nous sommes tous Charlie. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.